Les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Et aujourd'hui, en ce 8 mai, alors que nous célébrerons dans quelques semaines et pour quelques mois le 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, une question pour Fil Rouge. Le cinéma a-t-il réécrit la guerre et l'occupation? Pour en parler, pour y répondre aussi peut-être, je reçois l'historienne Sylvie Lindeperg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes co-commissaire de l'exposition intitulée « Paris brûle-t-il quand le cinéma réinvente la libération ?» Une exposition qui se tient présentement au musée de la Libération de Paris. Merci madame d'être ce matin au micro de France Culture.
Combien d'usines a saboté en priorité ?
Un peu plus de 200, mon général.
Pardon.
Voici les ponts. 48 en tout. Ici, les centrales électriques. Les installations hydrauliques, les usines à gaz. En moins de 5 minutes, la ville sera complètement paralysée.
Il vous faut combien de temps pour disposer les explosifs ?
48 heures.
Très bien.
Mon général, est-ce qu'il faut également prévoir la destruction des monuments historiques ? Notre-Dame, le Louvre ?
Tout. Mais vous n'entreprendrez rien sans mon ordre écrit.
Bien, mon général. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me trouverais chargé de préparer la destruction de toute une ville.
Ça, vous en aviez pourtant l'habitude en Russie.
Sans doute, mon général, mais jamais sur une telle échelle.
C'est exact.
Un extrait de Paris brûle-t-il, un film sorti en 1966 et signé René Clément. Et avant de plonger, Sylvie Lindeperg, dans la guerre, dans l'occupation, dans la déportation, expliquez-nous en quoi le cinéma, les films sont-ils des objets de recherche à part entière pour mieux saisir, pour mieux comprendre l'histoire.
Le cinéma est plus particulièrement dans la période, je dirais, de l'immédiate après-guerre, aux années 70, est vraiment un vecteur de mémoire et il construit plus encore des imaginaires. Et travailler sur ces films, et notamment sur la fabrication des films, permet de lire les enjeux multiples qui sont cristallisés autour de la réécriture de la représentation du passé et des enjeux qui sont toujours évidemment en lien avec l'histoire du temps présent.
Ce que vous nous dites dans le fond, c'est que ces films nous renseignent plus sur la mémoire et les représentations qui entourent ce dont ces films parlent que l'objet même qu'ils évoquent. Au fond, on se renseigne plus sur l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale plus que sur la guerre elle-même ?
Oui, au fur et à mesure que on s'éloigne de l'événement, on peut presque dire que le cinéma fait écran à l'histoire et dans le même temps, il agit sur l'histoire puisque c'est aussi un vecteur non seulement de mémoire mais aussi de mobilisation.
Est-ce que dans ce domaine de la recherche en histoire, la distinction un peu classique entre la fiction et le documentaire vous paraît pertinente ou vous prenez ces deux registres, ces deux champs de la même manière ?
Alors j'ai considéré pour répondre à cette question finalement qui est celle des usages cinématographiques du passé, que le documentaire et la fiction devaient être pris en compte, d'autant plus qu'il y a parfois des phénomènes d'hybridation entre les deux genres, et par ailleurs que je devais considérer aussi bien les chefs-d'œuvre que, je dirais, des films moins élaboré du point de vue cinématographique. Hein, Georges Duby disait le navet a aussi une autorité sociologique et historique.
Le navet a de la valeur.
Voilà.
Henri Rousseau relève dans son livre Le syndrome de Vichy qui est apparu en 1987. Il relève près de 200 films sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale entre 1944 et 1986. C'est 7% de la production annuelle de films en France. On le verra d'ailleurs, c'est une production irrégulière à travers les années et les décennies. Mais comment comprendre l'importance de cette proportion ? Qu'est-ce que ça raconte du rapport entre la France et la mémoire de la guerre ?
Alors, la production est considérable et elle l'est plus encore à certains moments. Et cette production dépend aussi du choix qu'on fait du passé. Et notamment, lorsqu'il s'agit du passé héroïque, il y a à certains moments des fortes vagues de films consacrés à la guerre. Alors, la France a eu à régler un certain nombre de de questions vitales, puisque c'était un pays complètement délité au sortir de la guerre. Et le cinéma a vraiment servi à ressouder la communauté nationale. Et puis, c'était également un outil de légitimation politique. Et pour cette raison, de très nombreux films ont été faits dans les années d'après-guerre. Mais par la suite, tous les événements qui avaient été occultés ont refait surface, notamment dans les années 70. Donc c'est une espèce de jeu à la fois dans le jeu dans le choix du passé, mais également dans la manière dont le cinéma va finalement mobiliser des imaginaires multiples.
Alors justement, tentons de retracer, de remonter ce chemin que vous venez d'évoquer, Sylvie Lindeperg. Juste après la guerre, on est en 1946, 22 films sont sortis au sujet de la Seconde Guerre mondiale, dont la moitié sont des montages d'archives. À ce moment-là, quelle est la fonction du cinéma quand on l'observe avec le recul? Est-ce que c'est de consolider le mythe de la France résistance déjà?
Oui, il y a vraiment un consensus historiciste autour du choix du passé, un passé qui est limité finalement à son versant héroïque. Le deuxième point commun à tous les films de cette période-là, c'est que ils sont pris dans une bataille de mémoire entre les gaullistes et les communistes qui ont leur propre institutions de production. D'un côté, le cinéma cinématographique aux armées, qui réalise des documentaires qui vont vraiment fixer le mythe gaullien, mais aussi la geste du général de Gaulle et de la France libre. Et de l'autre, le Comité de libération du cinéma français, qui est très une organisation de résistance cinématographique très proche des communistes, et qui a déjà anticipé d'ailleurs sur cette bataille de mémoire, puisqu'elle a envoyé des opérateurs dans le maquis du Vercors, et qu'elle filme l'insurrection parisienne pour réaliser le premier film de la France libérée qui s'appelle La Libération de Paris.
Entre les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre, est-ce que cela signifie que déjà une part du consensus est brisée, qu'il y a un combat de mémoire qui est en train de se jouer dès 1946?
Alors, le consensus porte sur le mythe héroïque d'une France unanimement résistante, à l'exception d'une poignée de traîtres qui reçoivent une juste punition. C'est vraiment le récit commun à tous ces films. En revanche, il y a de fait une bataille de mémoire, une bataille pour la légitimité politique qui va s'exprimer à travers une redéfinition du rôle des uns et des autres. Le cinéma commercial dans son ensemble essaye de rester à distance de ces luttes partisanes et met plutôt l'accent sur la résistance intérieure, sur la lutte des maquis, mais en essayant de ne pas prendre parti dans cette bataille de légitimité.
Alors prenons un exemple, essayons de comprendre avec un autre film de René Clément, La bataille du rail, sorti en 1946. C'est un film remarqué par la critique comme le public, adoubé deux fois au Festival de Cannes. C'est un film qui présente d'abord, je dirais, les différentes formes de résistance au sein du secteur des cheminots. Qu'est-ce que ce film, au-delà même de cette histoire des cheminots et de la façon dont ils ont résisté pendant la guerre, raconte de notre mémoire à la guerre?
Alors, ce film est précisément produit, commandé par le Comité de libération du cinéma français, donc plutôt par les communistes. Et il demande, la commande qui est passée à René Clément est celle d'un court-métrage sur la résistance héroïque des cheminots, mais surtout de la classe ouvrière. Et puisqu'elle conforme au fond à la manière dont le Parti communiste réécrit cette histoire dans une perspective qui met en avant aussi la trahison des élites. Mais pour réaliser ce film, René Clément et son équipe ont besoin de l'aide de la SNCF qui va également s'investir dans le sujet en prêtant du matériel, du personnel pour la figuration, envoyer un ingénieur en chef comme conseiller historique de René Clément et en profiter pour capter ce projet qui a été lancé par les communistes. Le projet d'ailleurs court-métrage documentaire va devenir un long-métrage de fiction, la SNCF augmenter sa participation et réussir finalement à faire opérer dans le récit du film une espèce de glissement d'une logique finalement qui était une logique de classe vers une logique d'entreprise, la SNCF utilisant ce film pour faire oublier les pages noires de la collaboration.
Est-ce qu'il existe, Sylvie Lindeperg, dans l'immédiate après-guerre, une place pour des films, des fictions, des documentaires qui vont tenter, sinon de briser ce consensus, du moins de le relativiser, de le tempérer un peu ?
Ils sont extrêmement rares dans cette période-là, parce que le consensus est très fort et partagé non seulement par les politiques, mais également par les producteurs, qui considèrent que les spectateurs attendent de pouvoir adhérer à un récit, à cette espèce de grand roman national qui est mis en place par le cinéma, qui va permettre d'une certaine manière de cautériser toutes les blessures. Et donc certains projets vont finalement être abandonnés pour ces raisons-là. Et j'ajoute que la résistance va également exercer un contrôle sur les premiers films réalisés dans les années 44-46.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi relativiser l'idée selon laquelle tout serait commande au fond du pouvoir public, comme si les producteurs, les acteurs n'adhéraient pas eux-mêmes à ce consensus ?
Alors, si on parle des années 44-46, le cinéma commercial finalement va s'accorder très largement avec cette mythologie héroïque, puisqu'il considère qu'elle correspond aux attentes sociales de l'époque. En revanche, dès que le contexte politique se modifie, à partir disons de la fin des années 46-47, immédiatement d'autres voix vont se faire entendre, d'autres manières d'envisager la France occupée et la résistance. Et le tournant est très brutal à partir de 47.
Il faut aussi penser ces films en lien avec le public. Est-ce que le public se rend très très largement, massivement au cinéma en 1945-1950 ou c'est une pratique, j'allais dire sinon marginale, mais du moins minoritaire ?
Non, le cinéma attire énormément de spectateurs. Par ailleurs, les Français ont été privés du cinéma américain, donc ils vont aussi en salle pour voir des films américains. Mais on parlait tout à l'heure de la bataille du rail. La bataille du rail est un grand succès critique et populaire.
On va poursuivre avec vous, Sylvie Lindeperg, cette discussion, remonter le fil du temps et le lien entre cinéma et Seconde Guerre mondiale à partir de 8h20. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-commissaire de cette exposition qui se tient présentement au Musée de la Libération de Paris. Une exposition intitulée « Paris brûle-t-il quand le cinéma réinvente la libération ?»
6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
Et aujourd'hui, en ce 8 mai, alors que nous célébrerons dans quelques semaines et pour quelques mois le 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, une question pour Fil Rouge ce matin. Le cinéma a-t-il réécrit la guerre et l'occupation ? On en parle avec l'historienne Sylvie Lindeperg, professeure à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, co-commissaire de l'exposition intitulée « Paris brûle-t-il quand le cinéma réinvente la libération ?» C'est une exposition qui se tient présentement au Musée de la Libération à Paris. On a parlé, Sylvie Lindeperg, dans la première partie de notre échange, de ce consensus qui entourait la guerre et le cinéma, que le cinéma permettait justement dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale en 1946 et sans doute jusque dans les années 50, mais pourquoi et comment ce consensus-là se brise-t-il dans les années 50 ?
Le premier élément qui accompagne cette espèce de bascule est évidemment le contexte de guerre froide. Les anciens alliés sont devenus des ennemis politiques et par ailleurs, les héritiers de la résistance sur le plan politique, les communistes et les gaullistes, sont aux deux extrémités, à l'écart de la 4ème République. De Gaulle est parti, il a créé son propre parti, et les communistes ont été renvoyés du gouvernement Ramadi en 47. Et donc, ceux qui portaient véritablement cet héritage et essayaient de capitaliser sur leur engagement dans la résistance sont désormais un peu écartés du pouvoir. Par ailleurs, dans le champ cinématographique, on voit revenir, disons, les anciens épurés, ou en tout cas, ceux qui ont eu maille à partir avec l'épuration à la Libération. Je pense à Clouzot, Kayat, Autan Lara, qui vont faire à leur tour des films sur la France occupée, sur la Libération, et remettre véritablement en cause ce mythe héroïque qui avait été cristallisé. Il montre des collaborateurs assez sympathiques, pitoyables, des héros de la résistance douteux. Dans le film de Clouzot, Manon, on voit émerger un événement qui avait été complètement occulté, les femmes tondues à la Libération. Et par ailleurs, la Libération devient elle-même non plus un moment de réconciliation, mais bien au contraire, le moment paroxystique des guerres franco-françaises. Donc, on voit à quel point on a un changement ici brutal, mais qu'on retrouve également chez ceux qui avaient participé à cette première vague de films héroïques et qui, eux, vont marquer une espèce de désenchantement. Leur porte-parole principale, c'est plus le résistant, c'est le prisonnier de guerre qui exprime finalement les désillusions d'une libération, d'un après-guerre qui n'a pas tenu ses promesses.
Alors, on est un peu plus loin dans les années 50, on est en 1956 quand sort Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Nuit et brouillard, c'est la déflagration. Alain Resnais disait lui-même, je le cite, surtout on était en pleine guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie commençait en France. Il y avait déjà des zones dans le centre de la France où il y avait des camps de regroupement. Je voulais un film qui dise aux gens non pas n'oubliez pas, mais chercher à comprendre pourquoi cela arrive, fin de citation. Est-ce que c'est ça aussi l'enjeu, peut-être l'ambition de ces réalisateurs au cours des années 50, tenter de comprendre pourquoi cela est arrivé?
Oui, alors Alain Resnais lui aussi reçoit une commande, qui est une commande qui s'inscrit à l'intersection des enjeux de mémoire et des enjeux d'histoire, puisque le film est réalisé au moment du 10e anniversaire de la libération des camps et porté par le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et par une association de déportés qui s'appelle le Réseau du Souvenir. Et il va s'emparer de cette commande pour en faire autre chose. D'abord, il va inaugurer un passage à l'art et faire une œuvre ouverte sur le présent, mais aussi sur le futur.
C'était moins le cas auparavant, ce passage à l'art que vous décrivez?
C'est la première fois pour ce qui concerne la déportation. Les premières images de la déportation ont été celles des actualités ou des premiers montages des actualités françaises. Et en effet, Alain Resnais, tout comme Jean Cayrol, ancien déporté et poète qui écrit son commentaire, souhaite se tenir à distance de leur commande, c'est-à-dire ne pas construire un monument aux morts, et au contraire jouer en permanence des écarts entre le passé et le présent, tout en alertant leurs contemporains à la fois sur le présent et sur ce qui peut se passer autour d'eux. La fin du commentaire que l'on entend sur les ruines de Birkenau dit clairement aux spectateurs la bête immonde, hein, pour parler comme Brecht, n'est pas morte sous les décombres. Soyez vigilants. Et il y a cette idée le film doit être un dispositif d'alerte qui permette en permanence aux spectateurs, à travers les époques, à penser leur présent, y compris en termes politiques. Pour Resnais et Cayrol, de fait, ce qui est en arrière-plan essentiellement, c'est la guerre d'Algérie. Mais au fil du temps, puisque ce film a été un succès considérable, d'autres événements, évidemment, ont été convoqués par les spectateurs.
Dans ce contexte-là, Sylvie Lindeperg, et une fois effectivement que ce consensus a été tempéré, presque brisé. Comment comprendre la résurgence, la reconstruction, la construction peut-être même d'un mythe résistentialiste à l'orée des années 60? On a du mal à comprendre aujourd'hui, en tout cas moi j'ai du mal à comprendre comment le seul retour de Gaulle et des gaullistes peut permettre la construction de ce mythe résistentialiste.
Et pourtant c'est le cas. C'est-à-dire que, de fait, hein, dès le retour au pouvoir du général de Gaulle en 58, à partir de la fin des années 50, on assiste vraiment à une nouvelle vague de films sur la résistance qui est extrêmement impressionnante et qui, contrairement à ce qui se passait à la Libération, est générée par le cinéma commercial. Il n'y a plus de pôle institutionnel qui s'empare du passé. Et on assiste vraiment à un moment de réenchantement pour la résistance, hein, qui avait été pratiquement abandonnée jusqu'ici. Et cette résistance, là encore, elle est redéfinie. C'est pas une reproduction à l'identique de ce qui s'était passé à la Libération. Au moment de la Libération, alors le point commun, de fait, c'est ce retour de ce mythe héroïque d'une France très largement engagée dans la résistance. Mais il y a également des différences tout à fait notables. D'abord, le cinéma de l'immédiate après-guerre mettait plutôt l'accent sur la résistance intérieure, sur les maquis. Le cinéma de la période, disons, de la République gaullienne, pour le dire vite, s'intéresse quand même, au moins à part égale, à la France libre et change aussi sa philosophie de l'histoire. L'immédiate après-guerre, c'est vraiment cette espèce de moment prométhéen autour d'un peuple en armes, de la croyance dans les lendemains qui chantent, d'un investissement collectif. La philosophie de l'histoire de cette période-là, elle se calque finalement sur la figure au pouvoir, sur cette espèce de confusion entre l'homme du 18 juin et le président de la République, et elle met vraiment l'accent sur le culte des héros, de l'homme providentiel.
Mais je reviens quand même sur la construction de ce mythe résistentialiste. C'est une chose le changement de régime, c'est une chose le discours de Gaulle et des gaullistes, mais comment comprendre que des réalisateurs, des producteurs libres quand même, j'allais dire, se fondent dans ce moule-là?
Parce que ils sentent. Alors, il y a deux périodes. Hein. Il y a vraiment le moment. Alors. Le général de Gaulle, dès son retour, va instrumentaliser la période de la Seconde Guerre mondiale pour légitimer son retour au pouvoir. Et il le fait par différents canaux de transmission, qui sont les discours, le cérémonial, mais aussi la télévision. Et l'ORTF va jouer un rôle absolument considérable. D'une certaine manière, je pense qu'elle va donner l'exemple. On ne compte plus les émissions de télévision qui vont évoquer, convoquer la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que le cinéma va un peu suivre. Il y a aussi des cinéastes qui vont s'emparer qui vont revenir sur la guerre parce que ils entretiennent désormais un lien nostalgique avec la résistance. C'est le cas de Melville, c'est le cas d'autres cinéastes. C'est cette période gaullienne, c'est le dernier moment où des cinéastes qui ont eu l'âge adulte et qui ont connu ce moment et cette heure du choix, vont encore réaliser des films sur la guerre.
Et à ce sujet, je voudrais citer Claude Chabrol à propos de son film La ligne de démarcation, sorti en 1966. Il explique, je trouve, que ce film correspond parfaitement à la codification admise de tous les films de la résistance, c'est-à-dire tous les occupants sont des méchants, avec une petite nuance, c'est-à-dire que les gens de la Wehrmacht sont moins méchants que les gens de la Gestapo. Et bien entendu, toute la France est résistante, à l'exception de quelques salauds, de quelques idiots. Et il rajoute, j'ai suivi ce schéma parce qu'il me l'était demandé. Fin de citation. On demandait à des réalisateurs de produire, de réaliser ce type de film.
Alors c'est assez bien résumé, hein.
C'est assez clair même.
Voilà, demandé, j'imagine, par son producteur. Et véritablement, alors, il parle de cette minorité de collaborateurs. C'est assez intéressant de voir qu'on a ici, là encore, la volonté de presque de purifier la communauté nationale. On concentre tous les péchés sur un seul personnage qui souvent va être exécuté. C'est vraiment le rituel de la Grèce antique, celle du pharmakos. Mmh. On a le bouc émissaire, on le charge de tous les péchés et sa mort va purifier l'ensemble de la communauté. Ça correspond aussi de nouveau à une attente. Et lorsque la guerre d'Algérie est terminée, on a été dans une période de nouveau de déchirement. Et ce besoin de réconciliation, de réconciliation nationale, il est pris en compte par le pouvoir gaulliste, mais également incontestablement par des producteurs qui pensent que renouer avec cette vision-là est un récit tout à fait porteur.
On l'a dit, hein, le musée de la Libération de Paris consacre une exposition entière en ce moment à un film, Paris brûle-t-il ? Pourquoi consacrer aussi cette exposition à ce film-là en particulier? Qu'est-ce qu'il raconte de notre rapport à la mémoire et d'une certaine vision de l'histoire?
Alors c'est vraiment un film monument. C'est par ailleurs un film qui permettrait de répondre à votre question, puisque le film est lancé, c'est un projet évidemment commercial. Hein,
on rappelle qu'il sort en 1966,
il est réalisé en 65, il sort en 66, et c'est l'adaptation d'un best-seller de Colline Célapierre, best-seller éponyme puisqu'il s'appelle Paris brûle-t-il. Mais immédiatement, le film va être réinvesti par les acteurs historiques, parce que c'est le premier film qui véritablement propose une espèce de fresque dans laquelle les acteurs historiques vont jouer leur rôle. On n'est plus dans la fictionnalisation, dans des personnages qui vont être inventés en référence à des acteurs historiques, mais ce sont les De Gaulle, Leclerc, Chaban-Delmas et tant d'autres qui vont être représentés.
Donc bien seul évidemment, qui n'est pas représenté, c'est le général De Gaulle.
Alors le général De Gaulle est représenté à travers les archives. Et cette représentation va faire l'objet de très nombreuses négociations, puisque au fond, l'écriture du film, qui est réalisée, l'adaptation par des Américains, hein, Colline Célapierre, Gore Vidal et Francis Ford Coppola, vont écrire vraiment sous le contrôle des communistes qui considèrent que le livre Souche est vraiment anticommuniste et qui menacent de s'opposer par tous les moyens à sa réalisation si le scénario ne prend pas ses distances, avec ce mythe qui consiste à dire que les communistes ont voulu prendre le pouvoir et organiser un coup d'État à la Libération. Et de l'autre côté, il y a les communistes. Et les communistes, non seulement sont représentés massivement dans le film, mais par ailleurs, le pouvoir tient dans ses mains la survie, l'exécution de ce projet. Pourquoi ? Parce que le personnage principal de Paris brûle-t-il, au fond, c'est la capitale. Et il faut tourner dans les rues de Paris. Et pour tourner dans les rues de Paris et les monuments de Paris, il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur, du ministre de la Culture, à l'époque c'est André Malraux, aussi d'ailleurs du préfet de police, un certain Maurice Papon.
Et puis, il faut rappeler le casting exceptionnel de ce film. Hein. Alain Delon en Chaban-Delmas, Bruno Kremer, Jean-Paul Belmondo, Orson Welles, Kirk Douglas, Yves Montand. Comment est-ce que le film est reçu par le public français, là encore dans son rapport à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale?
Alors, c'est vraiment, en effet, hein, la piste aux étoiles, hein, ce film, qui prend comme modèle, parce que le film est distribué par la Paramount américaine, qui prend pour modèle Le jour le plus long. Et il faut vraiment différencier dans la réception critique. Le film est vraiment accepté évidemment par les gaullistes et les communistes, mais tout le reste de la presse, de la gauche non communiste jusqu'à l'extrême droite, tire à boulet rouge sur Paris brûle-t-il, au motif que ce serait un instrument électoral en vue des législatives qui devaient avoir lieu en mars 1967. Jean-Louis Bory, dans le Nouvel Observateur, dit même c'est un péplum électoral. En revanche, l'accueil public est très bon. Le film recueille à peu près 5 millions de spectateurs, ce qui est plus qu'honorable. C'est moins que Le jour le plus long, c'est moins que La grande vadrouille, mais c'est un succès considérable, sans doute parce que le film offre une image extrêmement flatteuse des Parisiens participant à leur propre libération.
C'est moins que la Grande Vadrouille, c'est même bien moins que la Grande Vadrouille qui récolte 17 millions de spectateurs la même année, en 1966. On rappelle ce film réalisé par Gérard Houry. Qu'est-ce que là, cette fois-ci, la Grande Vadrouille raconte du point de vue, là encore, de notre rapport à la mémoire? Au fond, c'est les Français, même sans le vouloir, puisque c'est un peu ce que jouent Bourvil et De Funès, même sans le vouloir, ont résisté malgré eux.
Oui, du point de vue du récit, il n'est pas tellement différent de celui de Paris Brûle-t-il. C'est toujours l'idée d'une France, voilà. Mais par contre, c'est à la fois le ressort de la comédie de construire un modèle de héros plus accessible, qui est finalement le héros malgré lui. Et le film s'inspire aussi de toute une imagerie qui pourrait trouver sa source aussi dans Astérix, enfin dans voilà le Gaulois avec toutes ses caractéristiques qui va compenser son absence d'héroïsme inné par beaucoup d'inventivité, beaucoup de débrouillardise, et qui arrive à vaincre les Allemands ou les Romains.
Après un nouvel aller-retour, un nouveau retour, puisque le mythe est à nouveau brisé après 1968, au début des années 70, et le film qui illustre peut-être mieux cette nouvelle cassure du mythe résistentialiste, c'est Le Chagrin et la Pitié de Marcel Aufus. Là encore, en quoi est-ce une déflagration ce film? On rappelle qu'il c'est presque un film documentaire qui raconte, qui met la caméra devant des habitants d'une ville, Clermont-Ferrand, et qui raconte leur rapport à la résistance, à la guerre et ce qu'ils ont vécu dans ces années-là.
Alors c'est de fait une déflagration. Le film est réalisé en 69 et il va déjà profiter de tirer parti de la crise de mai 68. Il y a aussi tout un renouvellement de génération qui va infiltrer dans ce film. C'est un film aussi qui révolutionne totalement l'histoire du documentaire, vous l'avez dit, avec une espèce de dramaturgie du témoignage, de réflexion sur la mémoire.
Une façon aussi d'aller chercher des questions et des réponses et de suggérer des réponses.
Absolument. Et par ailleurs, c'est un film qui est quand même une machine de guerre, précisément, non contre le gaullisme, mais contre la construction gaullienne de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, cette idée aussi de l'homme providentiel. Et finalement, Aufus va essayer de remplir tous les espaces laissés blancs par le cinéma de la période antérieure, en évoquant tous ces sujets qui ont été oubliés, les guerres franco-françaises, y compris celle de la libération, la collaboration d'États, l'antisémitisme.
Vous avez mentionné qu'il s'agissait d'une nouvelle génération qui avait entouré, soutenu, accompagné la création de ce film. Il y a la génération précédente qui est beaucoup plus réticente lorsque ce film sort. Simone Veil explique, elle dénonce même que ce film est psychologiquement pernicieux, car il montre une France lâche, égoïste, méchante. Germaine Tillon estime que le documentaire montre le profil d'un pays hideux qui n'est pas ressemblant. Quant à Jean-Paul Sartre, dans La Cause du Peuple, il écrit « Ce film a reçu tous les éloges de la presse pourrie ». Fin de citation. Est-ce que là aussi, c'est une confrontation de générations?
Peut-être, mais pas uniquement. C'est-à-dire que je pense que le Chagrin et la Pitié, par cette génération, n'est pas compris effectivement comme pour ce qu'il offre, c'est-à-dire un moment de rupture évidemment brutal. Barthes disait que pour combattre un mythe, il faut en produire un autre, un contre-mythe, qui montre que le premier était une espèce de naïveté. Et c'est aussi ça qui se joue dans Le Chagrin et la Pitié, et qui est favorisé de fait par une génération qui veut interpeller ses aînés. Mais dans le même temps, très vite, Le Chagrin et la Pitié va créer aussi une vulgate qui laisse de côté et qui fait oublier l'engagement d'un certain nombre de résistants, et en particulier d'ailleurs les résistants gaullistes ou communistes qui sont moins bien traités dans le film.
On a parlé, Sylvie Lindeperg, de la guerre, de la collaboration, on a parlé de l'occupation. Est-ce que la mémoire de la Shoah suit, j'allais dire, un chemin similaire dans la façon dont elle est cristalliser, créer et dans ces allers-retours que l'on vient de décrire.
Non, je reprendrai plutôt l'image d'un balancier. On a parlé tout à l'heure de nuée brouillard. Avec nuée brouillard, le balancier était fixé du côté du système concentrationnaire de la déportation des résistants. À partir de la fin des années 70, va émerger de manière puissante, en France mais aussi dans d'autres pays, cette mémoire relativement enfouie de l'extermination des Juifs. Et à partir de ce moment-là, elle va dominer non seulement dans le choix des sujets, mais également dans la manière d'interpréter l'histoire. Avec la montée en puissance, alors bien sûr, il y a des jalons fondamentaux, la sortie de Holocauste en 79 en France, du feuilleton de Marvin Chomsky, Shoah en 85, donc avec un grand écart évidemment sur les formes de ces films. Mais dans le même temps, ces films permettent de faire émerger un événement qui va dominer désormais sur tous les autres et qui va souvent être relayé autour d'un certain nombre de poncifs comme le devoir de mémoire et également avec une appréhension très morale de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On va aussi voir progressivement les victimes prendre l'ascendant sur la représentation des héros.
Est-ce que aujourd'hui, année où les Manouchians ont été panthéonisés, la mémoire, j'allais dire, est complète du point de vue du cinéma? Est-ce que tout a été traité ou est-ce qu'il reste encore, il demeure encore des angles morts?
On pourrait en trouver encore, sans doute la question de, par exemple, de l'internement des tziganes en France, le sort des STO, qui a sans doute fait l'objet de documentaires, mais pas vraiment de fiction, le rôle des tirailleurs sénégalais dans la deuxième DB.
Et bien d'autres sujets, sans doute. Merci beaucoup, Sylvie Lindeberg. J'appelle que vous êtes professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-commissaire de cette exposition qui se tient présentement au Musée de la Libération de Paris. Une exposition intitulée « Paris brûle-t-il quand le cinéma réinvente la libération ?» Et vous m'aviez demandé tout à l'heure si je faisais un peu de guitare et si je m'étais entraîné sur Jeux interdits. Alors, quelques notes.
Merci.
Culture invente le manga audio, épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Doruido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hocquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.